Dans l'Antiquité, les minéraux étaient traités dans des creusets chauffés à blanc, afin d'en soustraire le métal. Ce processus purificateur permet d'éliminer les scories, c'est-à-dire les résidus inutiles. Or, dans les Écritures, le creuset est une image de l'épreuve et aussi du jugement. Je continue de lire dans le chapitre 9 de Jérémie. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur des armées célestes. Voici, je vais les fondre au creuset de l'épreuve, car que ferai-je d'autre avec la communauté de mon peuple? Dieu appelle, il envoie ses prophètes, et il attend et attend encore que le pécheur se repente. Mais une fois sa patience épuisée, il intervient et parfois le châtiment est sévère. Je continue plus loin en compressant. Je ferai de Jérusalem un monceau de décombres, un gîte de chacal. Des villes de Juda, je ferai une terre dévastée sans habitants. L'Éternel déclare, tout cela leur arrive parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais placée devant eux. Et ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas fait ce que je leur ai dit. Mais ils se sont conduits selon les penchants de leur cœur et ils se sont attachés au Baal que leurs pères leur ont fait connaître. Au lieu d'enseigner à leurs enfants la loi de l'Éternel, les parents les initient au culte des fausses divinités. Un péché particulièrement grave. Je continue. Voilà pourquoi le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, le déclare. Je vais faire avaler de l'absinthe à ce peuple et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. L'absinthe est une plante très amère, dont la consommation peut être mortelle. C'est une image de l'agonie et de la fin de Juda. Je continue plus loin en compressant. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez ces choses. Convoquez les pleureuses et faites-les venir. Envoyez appeler celles qui sont habiles à la lamentation et qu'elles viennent. Oui, qu'elles se dépêchent pour prononcer sur nous leurs cris plaintifs et que nos yeux fondent en larmes et que les pleurs ruissellent de nos paupières. Ô femmes, écoutez la parole de l'Éternel et ouvrez vos oreilles pour entendre ce que la bouche a dit. Enseignez à vos filles une complainte et que chacune apprenne à sa meilleure amie une lamentation. En Israël, certaines femmes sont spécialisées dans l'art de pleurer, de se lamenter par des chants funèbres pour exprimer le deuil de la famille. On les embauche afin d'augmenter les manifestations bruyantes de douleur par lesquelles les Orientaux honorent leurs morts. Ces lamentations ont un rituel bien codifié. Le père de l'Église, Jérôme, décrit ces femmes en tenant leurs chants funèbres, la poitrine nue et les cheveux éparses. Ici, lugubre ironie, c'est pour leurs propres funérailles que les habitants de Juda doivent convoquer les pleureuses. De plus, Jérémie invite les femmes à apprendre ce métier car c'est le seul qui sera utile au vu de la catastrophe à venir. Je continue. Oh, la mort a surgi, grimpant par nos fenêtres pour pénétrer dans nos belles maisons et faire disparaître les enfants de la rue et les jeunes des places. Proclamez-le, voici ce que déclare l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont sur le sol et resteront par terre comme du fumier dans les champs, comme des gerbes que les moissonneurs laissent et que personne ne ramasse. Les moissonneurs coupent les épis avec la faucille, puis les jettent derrière lui afin qu'ils soient ramassés par l'ouvrière qui le suit. Les hommes tués seront semblables à des javelles, des brassées de céréales jetées à terre par la grande moissonneuse, la dame à la faux. Et il n'y aura personne pour inhumer tous ces cadavres. Je continue. L'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre. Car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. L'apôtre Paul s'inspire de ce passage dans ses deux épîtres aux Corinthiens quand il dit « Comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » L'homme orgueilleux place sa confiance dans sa propre sagesse, son statut social, sa puissance et sa richesse. C'est très répandu, surtout parmi les gens influents et influents. Pour les stars, les politiciens et les hommes d'affaires, les valeurs morales et le caractère n'ont guère d'importance, car ce qui compte pour eux, c'est le pognon et le pouvoir. Il y a belle lurette qu'ils ont mis Dieu sur la touche et l'ont remplacé par eux-mêmes, la science ou autre chose. Quant au petit peuple, ses idoles sont l'alcool, la fesse ou le sport. Est-ce que j'exagère ou suis-je en dessous de la vérité? Je sais bien que ce n'est pas en m'exprimant ainsi que je vais obtenir les félicitations du jury, mais je me range aux côtés de Jérémie et je conteste toutes les philosophies humanistes modernes. En toute occasion, le seul appui sûr est une foi personnelle en Jésus-Christ et la vraie sagesse consiste à se confier en lui, à vivre avec intégrité et à être bienveillant envers autrui. Aime ton prochain comme toi-même, ordonne les Écritures. Je finis de lire le chapitre 9. Or, le temps vient, déclare l'Éternel, où moi, j'interviendrai contre le circoncis incirconcis, ceux qui sont circoncis seulement dans leur corps, contre les Égyptiens, les Judéens, les Édomites, les Ammonites, les Moabites et tous les habitants des abords du désert qui se rasent le haut des joues, car toutes ces nations ne sont pas vraiment circoncises, de même que tous les Israélites, elles ont le corps incirconcis. Selon l'historien grec Hérodote, certaines tribus arabes se coupent les cheveux en rond et se rasent le tour des tempes en l'honneur de Bacchus, une pratique évidemment interdite par la loi de Moïse. Jérémie fustige à nouveau l'idolâtrie et les formalismes religieux de ses contemporains. Ce n'est pas la circoncision du corps qui compte, mais celle du cœur, ce que Paul écrit d'ailleurs aux Romains. Nous arrivons au chapitre 10 où Jérémie s'attaque à nouveau à l'idolâtrie qu'il dénonce avec une ironie mordante et virulente tout en faisant ressortir son absurdité. Je commence à lire le chapitre 10. « Ô peuple d'Israël, écoute la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que déclare l'Éternel. N'imitez pas le comportement des nations et ne redoutez pas les signes dans le ciel, même si les nations en sont saisies de peur. Les païens adorent les astres comme le soleil, la lune, les étoiles et les planètes du système solaire qu'ils confondent avec leur divinité. Ils interprètent les phénomènes célestes, les éclipses, le positionnement des astres, le passage des comètes, comme étant un bon ou un mauvais présage des événements terrestres présents et futurs. Aujourd'hui, nous avons les signes du zodiaque, l'horoscope, le thème astral, les diseuses de bonne aventure et je ne sais quoi encore. Il n'y a donc guère de différence entre le français moyen et son homologue babylonien. Je continue. Les coutumes des autres peuples ne sont que du néant. Leur dieu n'est que du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main d'un sculpteur. On l'embellit d'or ou d'argent. Un marteau et des clous le font tenir en place pour qu'il ne branle pas. Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Ils ne savent parler. Il faut qu'on les transporte car ils ne marchent pas. Ne les craignons pas. Ils ne font pas de mal. Et ils ne peuvent pas non plus te faire du bien. Les idoles sont soit une moulure de métal, soit une statue taillée dans du bois, puis enrichie d'une couche d'or et d'argent. Un peu comme les Bouddhas et les divinités hindoues aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Comme le dit si ironiquement Jérémie, leur place est dans un champ de concombres à côté de l'épouvantail de service. Imaginez quelqu'un qui, Après avoir décoré un arbre de Noël, se met ensuite à plein ventre devant lui pour l'adorer. Voilà en gros ce que font les habitants de Juda. Nous, on a évolué et on ne fait pas des choses pareilles. Nous sommes une société de consommation moderne qui avons remplacé les statues muettes par toutes sortes de choses que nous possédons pour nous divertir, tuer le temps et ne pas mourir d'ennui. Je continue en compressant. Personne n'est comme toi, ô Éternel, car tu es grand et parce que tu es puissant. Ta renommée est grande. Qui donc ne te révérerait pas, roi des nations? On doit te révérer, car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, personne n'est semblable à toi. Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Par sa colère, la terre est ébranlée et les nations ne peuvent soutenir son courroux. Ces affirmations ne sont pas superflues, mais plutôt l'expression d'une foi héroïque. Car, à cette époque, la puissance d'un Dieu se mesure à la prospérité du peuple qui invoque son nom. Comme Israël part en exil, l'Éternel va paraître inférieur aux divinités babyloniennes. Cependant, l'Éternel qui a créé et contrôle tout est le seul Dieu éternel. Le seul Dieu vivant est digne de confiance et le seul devant qui l'univers doit trembler. Je continue. Vous leur direz ceci. Les dieux qui n'ont créé ni le ciel ni la terre disparaîtront de dessus cette terre et de dessous ce ciel. Ce verset n'est pas écrit en hébreu, mais en araméen, la langue internationale de l'époque. Ce changement soudain de langue donne au texte un regain d'énergie. Jérémie dicte aux Israélites captifs qu'ils devront dire aux Babyloniens que leurs divinités sont impuissantes et qu'elles seront anéanties, ce qui sous-entend que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Je continue en compressant. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse et il a déployé le ciel par son intelligence. Combien est différent le Dieu qui est la part du peuple de Jacob? Il a tout façonné. Israël est le peuple qui constitue son patrimoine. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Les habitants de Juda sont le peuple élu qui appartient en propre à l'Éternel. C'est donc son bien précieux. Les nations se partagent la terre, mais le privilège d'Israël est de posséder l'Éternel comme son Dieu. Je continue plus loin. Je sais, ô Éternel, que le dessein de l'homme n'est pas entre ses mains et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Jérémie exprime ici son besoin du soutien de Dieu. L'être humain n'est pas capable de diriger correctement sa vie et ça se voit dès l'enfance. Quand notre fille aînée avait 3-4 ans et que nous sortions, il ne fallait pas la quitter d'une semelle parce qu'elle ne savait pas ce qu'était une ligne droite et partait dans n'importe quelle direction. Finalement, on a été obligé de lui mettre un harnais afin de ne pas la perdre en route. Aujourd'hui, notre monde est dans un triste état. À chaque seconde ont lieu des pires atrocités. Elles ne sont pas sanctionnées parce que nous avons abandonné les préceptes que Dieu nous a donnés dans sa parole. Ceux qui nous dirigent ne savent pas distinguer l'endroit de l'envers, vrai du faux, le bien du mal, et toute leur sagesse se résume à « Vas-y, comme je te pousse, je suis le meilleur et je me remplis les poches. » Je finis de lire le chapitre 10. « Châtie-moi, Éternel, mais avec équité et non avec colère, pour ne pas nous détruire presque totalement. Déverse ta fureur sur les peuples païens, ceux qui ne te connaissent pas, sur les nations qui ne t'invoquent pas, car ils ont dévoré, oui, dévoré Jacob jusqu'à l'exterminer, et ils ont ravagé le lieu de sa demeure. » Jérémie se déclare solidaire de son peuple. Il comprend que Dieu doit sévir, mais il implore sa miséricorde et demande que sa colère se déverse sur les Babyloniens qui vont attaquer Israël avec furie et sans mesure. Nous arrivons au chapitre 11, qui est le quatrième message de Jérémie, et donc un nouveau serment, et qui est assez similaire au précédent. Ce discours semble dater du règne de Ioachim, donc bien après la découverte dans le temple d'un exemplaire de la loi. Jérémie réside dans son bourg natal d'Anatote, et on l'informe d'un complot qui se crame contre lui. Je commence à lire. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. « Écoutez donc les clauses de cette alliance. Tu les énonceras pour les gens de Juda et les habitants de Jérusalem. » Jérémie expose le contenu du contrat d'alliance que l'Éternel a établi avec les Hébreux à la sortie d'Égypte et que le bon roi Josias avait ratifié. Il va passer en revue différents articles qui conditionne la vie quotidienne et en particulier les relations de l'homme avec Dieu et son prochain. Je continue. Tu leur diras, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui ne respecte pas les termes de l'alliance que j'ai prescrit à vos ancêtres lorsque je les ai fait sortir d'Égypte, de ce creuset de fer, et que je leur ai dit, écoute-moi et appliquez tout ce que je vous prescrirai, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » Le creuset de fer est une métaphore qui décrit la dureté de l'esclavage enduré par les Hébreux en Égypte des siècles auparavant. L'Alliance prévoit la bénédiction du peuple s'il obéit à la loi et la malédiction dans le cas contraire. Tous ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu sont aussi responsables de s'y soumettre. C'est pourquoi il vaut mieux être un païen pur et dur, perdu au fond de la brousse, qui rend un culte aux esprits de la forêt, plutôt que de fréquenter une église où la bonne nouvelle est annoncée et de lui rester indifférent. Le jugement de Dieu sera plus sévère pour celui qui joue la carte de la religion que pour l'animiste moyen. Je continue le texte du chapitre 11 plus loin. L'Éternel ajouta, « Les habitants des villes de Juda et de Jérusalem préparent un complot. Le peuple de Juda est triplement coupable. Il résiste délibérément aux appels pressants à la repentance de Jérémie. Il s'obstine à rendre un culte aux idoles et il choisit de croire le message de paix qu'annoncent les faux prophètes. De plus, les chefs juifs, incrédules, ont fait un pacte pour annuler les réformes religieuses entreprises précédemment par le bon roi Josias. Je continue plus loin. Autant tu as de villes, autant tu as de dieux, Juda. Autant tu as de rues, Jérusalem, autant tu as dressé de hôtels à la famille, des hôtels pour offrir des parfums à Baal. Ce reproche apparaît déjà dans la première prêche de Jérémie, ce qui montre qu'aucun changement de disposition n'est survenu entre les deux discours. L'idolâtrie est tellement répandue qu'il existe des fausses divinités pour chaque ville et un autel qui leur est dédié à tous les carrefours, un peu comme dans les campagnes françaises très catholiques où on trouve des crucifix à chaque croisée des chemins. Je continue plus loin. Pourquoi ma bien-aimée vient-elle dans mon temple pour agir avec fourberie? La viande consacrée pourrait-elle détourner le châtiment? C'est quand tu fais le mal que tu te réjouis. Jérémie dénonce à nouveau le formalisme religieux des Israélites qui offrent des sacrifices à l'Éternel tout en pratiquant l'idolâtrie et en s'adonnant au mal. Je continue plus loin. L'Éternel m'en a instruit, il m'en a informé, et il m'a fait voir ce qu'il tramait. C'est ici la première fois que Jérémie parle des dangers attachés à son ministère de prophète. Cette entrée en matière éveille l'attention du lecteur qui n'est informé que progressivement du complot meurtrier que les habitants d'Anatode, la ville d'origine de Jérémie, complotent contre lui. Je continue. J'étais comme un agneau docile qu'on mène à l'abattoir, et je ne savais pas que c'était contre moi qu'il concevrait de tels projets, disant « Abattons l'arbre pendant qu'il est en sève, venez, supprimons-le du monde des vivants, et qu'on ne s'en souvienne plus. » Jérémie a prêché la parole du Seigneur un peu partout dans le royaume de Juda, obéissant ainsi à l'Éternel. Il est probable que certains Israélites sont vraiment revenus à l'Éternel. Mais pour l'immense majorité d'entre eux, le prophète est leur mauvaise conscience, donc gênant. La solution consiste alors à le réduire au silence en l'assassinant. Mais il est choquant de constater que ce sont les concitoyens de Jérémie qui veulent l'éliminer, ses amis d'autrefois, avec qui, dans sa jeunesse, il battait la campagne. Mais l'apôtre Jean rapporte que Jésus a dit « Un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. » D'ailleurs, Luc rapporte que quand le Seigneur a prêché dans la synagogue de Nazareth, sa ville natale, on chercha aussi à le mettre à mort. Je continue le texte. « Ô Seigneur des armées célestes, tu es un juste juge, tu es celui qui sonde le cœur et les pensées. Que je vois donc comment tu les rétribueras. En effet, c'est à toi que j'ai remis ma cause. » Jérémie implore la protection que l'Éternel lui a promise. Dieu va le venger parce que c'est lui qui est offensé en la personne de son serviteur. Je finis de lire le chapitre 11. C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel au sujet des hommes d'Anatote qui veulent te tuer et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, sinon nous te tuerons. » Oui, c'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel des armées célestes. Je vais sévir contre eux. Leurs jeunes gens périront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine, et il n'en restera aucun. Je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatote dans l'année de leur châtiment. Jérémie a fidèlement annoncé le message que l'Éternel lui a donné, mais il y laisse des plumes. Et si Dieu n'était pas intervenu, il y aurait laissé sa vie. L'obéissance à Dieu peut mener au sacrifice suprême. Matthieu rapporte que Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. »